Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons et dans tous les sens, là où ça se passe, là où ça gaze.
En direct du studio 511, une émission réalisée par Céline Hilla, assistée de June Loper, avec Arnaud Caillet à la pyrotechnique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, gilets jaunes, chronique d'une semaine agitée. À Paris, la contestation gronde et s'amplifie d'un samedi à l'autre. La colère des gilets jaunes renonne des couleurs au mouvement social et ragaillardit lycéens et étudiants qui se mobilisent. Et à Montluçon, ville emblématique de la France des ronds-points, on se mobilise aussi. Lycéens, retraités, cheminots avec les gilets jaunes.
Donc c'est contre beaucoup de choses. La réforme du bac, inégalitaire bien sûr. La réforme de l'université, inégalitaire aussi. Parcoursup, inégalitaire. Il y a aussi 2-3 gilets jaunes et puis aussi on est contre l'ISF.
Pour une fois, ceux qui s'inquiètent et ceux qui ont peur, ils sont de l'autre côté de la barrière.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit d'insurrection qui court à travers notre pays. Depuis 4 semaines maintenant, le mouvement des gilets jaunes agite la France des ronds-points. Aux 4 coins de l'Hexagone, on bloque, on fait des barricades, on se rassemble, on conteste l'ordre établi, la suprématie d'une élite qui se gave sur le dos d'un peuple qui en bave. Certaines préfectures, comme au Puy-en-Velay, brûlent. Et à Paris, les blindés sont sortis. Une première depuis 1974. Le pays est à feu et personne ne sait très bien comment tout cela va se terminer. D'autant qu'à la colère des méprisés de la France d'en bas vient s'ajouter celle du mouvement social dont les revendications, écrasées par Jupiter du temps de sa splendeur, refont surface. Personne ne pouvait prédire que l'insurrection viendrait de là, du ventre mou de la classe moyenne, mais elle est bien là. Et pendant ce temps, alors que notre président se terre et se tait, Brigitte refait la déco de l'Élysée. Après avoir changé la vaisselle, jugée vieillotte, c'est le style du palais présidentiel que la première dame dépoussière. Moquette grise et tenture beige pour, je cite, « laisser entrer la lumière ». Un petit air de Marie-Antoinette qui résonne.
Alors certains ont osé dire que cette réplique faisait très ancien régime. Mais avec l'historien et anthropologue Emmanuel Todd, on apprendra que nous sommes plutôt dans la science-fiction, où nos dirigeants ont des problèmes de réalité parallèle, tout en essayant de rattraper ou de contenir le mouvement, selon qu'ils soient des partisans du vieux monde ou de la start-up nation.
Et dans cette chronologie d'une semaine agitée, toi Antoine, tu es allé à Paris, sur les barricades, à la Bourse du Travail, mais aussi à Montluçon, emblème de la France des ronds-points.
Oui, sortir du travail et croiser sur une barricade dans le 16e arrondissement, les gavroches du 21e siècle, c'est pas tous les jours. Et aller jusqu'à Montluçon non plus, elle est loin, en train, la France des ronds-points.
Jusque 17h sur France Inter, comme un bruit qui court, gilets jaunes, chronique d'une semaine agitée, quand les uns commencent à s'énerver, les autres se prennent à rêver.
Samedi 1er décembre, 20h, du côté des Champs-Élysées.
Les Gilets jaunes, acte 3, le mouvement maintient la pression sur le gouvernement et appelle à manifester partout dans le pays, et notamment sur les Champs-Élysées.
Les Gilets jaunes battent leur appel sur les réseaux sociaux, on veut un samedi énorme.
Situation confuse autour de l'Arc de Triomphe sur le haut des Champs-Élysées à Paris.
On craignait de nouvelles violences sur les Champs-Élysées et ça n'a pas raté.
Guy Voutil.
La bombe.
Radio. C'est
Antoine Chao.
Comme un bruit qui court.
Comme un bruit qui court.
Comme un bruit qui court.
Charles Péron.
Oh, ça doit être quand on veut ou quand Macron, ça
se Macron, il profite des gens.
Non, c'est pas en direct. Ça.
Macron, il profite des gens. Il leur prend tout leur pognon.
Hashtag comme un bruit.
Et vous, vous venez d'où, vous?
Nous,
du RX. Des RX.
Des RX.
De l'Eure-et-Loire, on est venus. À pied.
Les gars, ça a baisé la rugbyste.
Là, on fait une barricade, comme ça, les keufs, ils passent pas, ma gueule.
C'est pour notre avenir qu'on fait ça.
C'est votre première manif?
Ouais, entre autres. Je vous cache pas que c'est un peu choquant, hein, tout ce monde.
Regarde, ça descend avant.
Ah là, il y a les flics qui arrivent là.
Franchement, on est obligé de faire ce bordel là, comme ça, de la France, elle nous entend. Là, les bleus qui arrivent, tous les pays nous entendent.
Là, il y a les bleus,
on en a marre.
Ah
non, on en a marre.
Ah, c'est un français tout là.
Là, ça arrive de toutes parts là.
Ça arrive, ouais, ça arrive. On est des bonhommes, nous.
Hein? Nous, on reste jusqu'au bout, nous.
Ah, vous restez jusqu'au bout là.
Enfin, il y en a un, il veut bouger, il va pas dire son blaze.
Déterre, tu dis.
Ah, déterre, photo.
Déterre. On passe derrière la barricade, des palissades de chantier, des barrières, des panneaux de signalisation. Et on a l'Arc de Triomphe au bout du boulevard Haussmann.
Là, ils sont là pour revendiquer. Là, mais ferme ta gueule, toi, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Fermez vos gueules, les jaloux, ceux qui font rien. Hein ? S'il te plaît, d'avoir plus fort. Eh, hey, quand ce sera la vraie révolution, eh, hey, les gens comme vous, il faut qu'on... Ah, ça c'est rien, ça c'est rien.
C'est
pas les gilets jaunes. Le jour il y aura une dernière révolution.
Un périscope.
C'est un périscope que tu fais?
Oui.
Et qu'est-ce qu'ils te disent alors?
Regarde, à son avis, la plupart ils soutiennent, mais il y a 2-3 détracteurs à qui je donne
mon avis. Tu réponds, quoi, ouais. Et voilà. T'as combien de followers alors?
Là, on a une centaine de personnes.
Centaine de personnes,
ouais.
Vous venez d'où?
Nous, on habite dans la région parisienne, dans 77, ouais. Dans une ville, voilà, et dans toutes les villes de la région parisienne, ça se révolte. Parce que, évidemment, les gens n'en peuvent plus. N'en peuvent plus de ce pouvoir qui décide à la place du peuple, qui lui impose et qui s'étonne ensuite. Alors les gens qui critiquaient les casseurs, oui certes la casse c'est mauvais, c'est toujours mauvais, c'est pas constructif. Hein. Vous voyez la casse c'est pas fait pour donner l'exemple. Mais remarquez un truc, hein, c'est que tous les journalistes quand il y a de la casse, la première chose qu'ils font c'est filmer. Alors vous pouvez critiquer les casseurs, mais c'est un moyen de se faire entendre, un moyen comme un autre. Alors vous avez beau critiquer les détracteurs, chacun a son avis les gars, mais sincèrement, s'ils ne feraient pas ça, est-ce qu'ils se feraient entendre? Eh, s'ils manifesteraient pacifiquement, comme des branleurs, avec des limites, avec des autorisations préfectorales, et toutes ces conneries qui limitent la voix du peuple et qui limitent l'action du peuple. D'accord? Et moi, vous savez quoi? Je vais vous le dire, hein, je trouve qu'ils vont pas assez loin. Je veux que ça aille plus loin. Une vraie révolution, ça va beaucoup plus loin. Et ça a beaucoup plus de casse. Voilà. Et regardez bien ce peuple.
J'ai les sourcils qui froncent sans cesse, le ventre qui brûle, les nerfs qui contractent ma face.
Ils arrivent! Ils arrivent! Oh! Oh!
Tu croyais m'abattre? C'est raté, sache que la provocation ne m'a jamais épaté. Il y a peu, je me tairais, me taisant face à la terreur trouble qui me terrassait. J'irai dans l'erreur trop éreintée pour y voir clair, laissant mes efforts se défenestrer sans dire au revoir. Le dégoût, cramponné au basket, les dégâts qui chantonnent à tue-tête. Été froid, hiver brûlant, ne sens-tu pas le dérèglement? Été froid, hiver brûlant, j'ai besoin d'une avalanche de mots braves, détonnants, couleur lave, dévorant. Il s'en fallut de peu frôler le creux, serrer les crocs. Des mots braves, détonnants, couleur lave, dévorant. Il s'en fallut de peu frôler le creux, serrer les crocs.
C'est parti.
On est plusieurs, on est des milliers, à feindre l'assurance pour éviter de s'entailler. Été froid, hiver brûlant, j'ai besoin d'une avalanche de mots graves, détonnants, couleur lave, dévorant. Il s'en fallut de peu frôler le creux, serrer les crocs. Des mots braves, détonnants, couleur lave, dévorant. Il s'en fallut de peu frôler le creux, serrer les crocs. Mon présent découpant l'avenir à vif en tas de marques oppressantes.
Sans armes, sans haine et sans violence, liberté, égalité, fraternité. J'utilisais ton panneau qui sert en même temps de bouclier, quoi.
À la base, c'était pour protéger les papés et les mamés qui se faisaient matraquer. Parce qu'on est venu samedi dernier et on a vu des retraités se faire matraquer alors qu'ils chantaient la Marseillaise. Donc, du coup, on a créé ça. À la base, c'est vraiment pas, tu vois, on n'est pas devant pour casser. Nous, on ne revendique pas toute cette violence, même si, malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça que le gouvernement comprend.
C'est un bouclier de défense citoyenne, quoi, c'est ça?
Non, même pas. Pour moi, il y a un message. D'abord, ouais. D'abord, c'est un message. Et après, c'est si ça peut protéger quelqu'un, oui. Mais on n'ira pas charger, parce qu'en face, ils font leur métier. Il ne faut pas oublier que c'est des hommes avec des enfants, une famille et des crédits. Voilà, ils peuvent pas envoyer chez leur patron parce que sinon ben, ils sont virés vu qu'ils ont pas le droit au syndicat ni à la grève.
Vous venez d'où vous?
Du sud, Lunel, Marcillargues et Margues, à côté de Nîmes.
C'était plus important d'être à Paris que de vous mobiliser chez vous?
Moi, c'est Macron. Macron, il m'a dit que ceux qui veulent me prendre viennent me chercher. Ben, on est là, on est là. On veut lui parler, mais lui, il veut pas. Et maintenant, il veut partir sur 3 mois de négociation.
On ne veut même plus lui parler, c'est terminé, c'est fini, démission, on en a marre.
Fin des privilèges.
Il n'a pas voulu parler, maintenant c'est nous qu'on lui dit qu'on ne lui parlera plus, c'est terminé.
Il faut vraiment qu'on arrête tous ces privilèges. On se croirait encore au temps de la monarchie. C'est plus possible. Moi, je connais plein de gens autour de moi qui sont en souffrance, des retraités, des travailleurs. À un moment donné, il faut remettre les choses en place. Vous prenez la Norvège. Le Premier ministre, il gagne 2000 euros net par mois. Il va au boulot en tram. Il justifie tous ses frais. Là, le problème, c'est qu'on a des élus. Ils se versent des salaires mirobolants, des indemnités. Et puis tous les jours, grâce à Internet, on apprend telle dépense. Et derrière, ils viennent nous demander de faire un effort. Ils sont totalement déconnectés de la réalité. Ils vivent dans un autre monde, ces gens-là. Moi, je pense que 2000 euros net par mois, plus les frais justifiés, c'est très bien. Et puis déjà, on récupérerait énormément d'argent.
Attention, ouais.
On récupérerait énormément d'argent.
Pour l'instant, là, ça casse les vitrines autour. Hein. Il y a de la colère. Hein.
Malheureusement, ouais. C'est ça. Moi, ça me désole de voir ça. Ça me désole parce qu'on aimerait que ça se passe bien. Mais malheureusement, pacifiquement, ça ne marche pas. Voilà. Ils ne nous écoutent pas. Ou alors, ils partent sur des négociations de 3 mois. Comme jusqu'à maintenant, ils pensaient qu'on était juste dans la rue pour la taxe gasoil et la taxe carbone. Mais non, ils nous parlent d'écologie, mais pourquoi ils ne taxent pas le kérosène? Pourquoi ils ne taxent pas les bateaux? Pourquoi ils ne taxent pas les avions?
Ça court, là, il doit y avoir une charge, là, ouais.
Non, mais faut pas courir.
Faut pas...
Vous voulez du sérum?
Non, pour l'instant, ça va. Hein, y a...
Mais j'espère.
Le vent part par là-bas, donc on est plutôt à l'abri, quoi.
Mais 68 ne s'est pas fait.
La voiture.
Qu'est-ce qu'il y a, la voiture?
La voiture, elle a pris feu, elle va péter.
La voiture, elle a pris feu. Ça va?
Ah, j'ai pris un flashball.
T'as pris un flashball?
Ouais, j'ai pris un flashball.
Mais quand ça? Ce matin, là?
Non, à l'instant.
À l'instant?
À l'instant.
D'accord, faut faire gaffe. Ça court, là, sur l'avenue, sur le boulevard Haussmann. C'est chaud, là, hein?
Emmanuel Todd, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver en ces temps agités.
Oui, je crois qu'on peut les qualifier d'agités, oui.
D'autant qu'on vous a vu à plusieurs reprises prendre parole sur le conflit des Gilets jaunes en disant à quel point ça vous rendait votre fierté d'être français.
Oui, c'est-à-dire j'ai vu la culture française dont on nous dit sans arrêt qu'elle disparaît dans la mondialisation. Je l'ai vu réémerger dans toute sa splendeur. Avec en son centre la capacité des faibles, des humbles, des opprimés, des milieux populaires à dire merde à leur classe dirigeante quand elles font n'importe quoi. Donc moi c'est pour ça que je suis fier d'être français. Alors que les types qui sont actuellement au gouvernement, qui ont provoqué la crise des Gilets jaunes, ne sont pas complètement dans la réalité.
Parce qu'il y a ce mouvement spontané qui est apparu justement hors des circuits syndicaux, politiques et traditionnels contre le renoncement.
Oui, c'est absolument. Par leur capacité de soulèvement contre un gouvernement et des élites absurdes, ils ont montré que la France existait toujours. Et je pense que quand on est dans une société qui atteint un niveau de crise tel que la société française, avec des rues paralysées, un gouvernement absolument intraitable, qui semble tout faire pour aggraver le chaos, qui est dans une stratégie du chaos. Évidemment, je suis solidaire des Gilets jaunes.
Pour leurs revendications,
vous voulez dire. Pour leurs revendications, évidemment, c'est un sentiment de justice qui transcende les catégories sociales, pour moi, puisque je suis très évidemment d'origine bourgeoise.
Mais vous n'avez pas nécessairement une voiture diesel à faire rouler.
J'ai une poubelle en Bretagne, mais je peux vivre sans voiture. Je fais partie des gens qui peuvent. Je vis à Paris, etc. Mais le truc magique de la France, c'est le mélange de. C'est un journaliste américain qui m'a, un francophile, qui m'avait dit ça. Le mélange de flexibilité et de continuité. C'est à l'intérieur de chaque Français, il y a le potentiel pour être un anarchiste et un mec discipliné et efficace. Et c'est ce qui fait que la France est ce pays où, en théorie, rien ne marche, mais qui quand même fonctionne. Mais moi, je sais, au fond, en tant qu'anthropologue qui a voyagé, tout le monde nous envie.
Vous pouvez donner 1 ou 2 euros pour les gens qui ont fait les courses.
Mardi 4 décembre, Paris se bouge, apéro à l'Assemblée. Organisé par la fête à Macron, ça se mobilise de partout, dans les zones rurales, sur les ronds-points en Outre-mer et maintenant à Paris aussi. Alors on a décidé de toutes et tous aller dans la rue ce samedi et d'appeler à organiser des apéros devant les lieux de pouvoir. Et à Paris, on n'en manque pas. On était plus de 1000 à République jeudi dernier.
Est-ce que je peux avoir votre attention 2 secondes? Tout le monde m'entend là ou pas? Si je parle comme ça, c'est bon? Bon, bah déjà, merci encore à tous et à toutes d'être venus. On voulait faire un apéro pour qu'on ait l'occasion de se parler. On fait souvent des AG, mais finalement, les gens n'ont pas le temps de parler entre eux. Donc là, c'était l'occasion. Et on vous propose qu'on aille tous et toutes à la Bourse du Travail à République, c'est direct, pour parler concrètement d'action, de blocage, tout ça, à Paris et dans l'Île-de-France. Ouais, qu'on y aille maintenant. C'est appelé par le Front Social. Voilà, donc qu'on aille là-bas avec les autres camarades pour parler de tout ça, quoi.
On propose même d'y aller en chanson. Ah, voilà. Toutes les révolutions commencent et finissent par des chansons. On y va ?
Les aristocrates, on les prendra. 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. Plein 300 ans qui donnent des fêtes et qu'ils entretiennent des catins. Plein 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases. On ne veut plus mourir de faim. Châtiment pour nous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous vous êtes bien payé nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Asseyra, 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 les gens se trottent à la lanterne. Asseyra, asseyra.
Avis à la population, comme un bruit qui court sur les réseaux sociaux.
Bourse du Travail, Château d'Eau.
Hashtag comme un bruit.
Salle Eugène Croizat, bloquons Paris et sa banlieue, Agen. Une salle comble. Alors Gaël qui rentre, il y a le Front Social qui reprend des couleurs là, hein, notamment... Avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là?
Bon, en fait, il n'en a jamais perdu, d'abord, le Front Social, parce que là, l'esprit, il est simple. Il y a une mobilisation d'une partie de notre camp social qui est en train de mener une bagarre déterminée. Cette colère, c'est la nôtre. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde? On accompagne comment? En venant le samedi? Ben non, sur la région parisienne, sur Paris, il faut se poser la question de comment on bloque. Et quand on est salarié, quand on est travailleur, la façon de bloquer, c'est de se mettre en grève. Quand on est étudiant, c'est de pas aller en cours. Quand on est lycéen, c'est de pas aller au lycée. Voilà, quand on est dans son quartier, c'est aussi de bloquer à toute une série de secteurs qui sont dégueulasses. Bon, et ben il faut qu'on commence à se coordonner et qu'on impulse quelque chose. Donc aujourd'hui, c'est important ce qui s'est passé, parce que c'est pas juste une rencontre par le nombre, mais c'est aussi une rencontre pour discuter concrètement comment on intervient dans cette situation sociale. On a tous envie d'en finir avec une logique d'une société qui sert en fait une petite partie de parasite dont Macron est un représentant, mais qui aujourd'hui vacille. Et il vacille parce que on a vu que ceux qui en peuvent plus, ceux qu'on a méprisés, ceux à qui on disait de traverser la rue, ceux qui vivent en fait les conséquences de la crise de ce système capitaliste, ils en ont eu ras-le-bol. Et ça s'est vu de façon totalement forte, déterminée, dynamique. Enfin, tu rends compte de ce truc-là? Les mecs, on leur dit viens, alors que t'as tout le temps les directions syndicales, quand il y a le gouvernement qui dit venez, on va discuter, ils devancent parfois le gouvernement. Là, ils disent non, c'est pas possible, on n'est pas représentatif. Donc là, il y a quelque chose, je crois, d'important qui est en train de se mettre en œuvre. Mais les gilets jaunes, c'est pas un point de départ. pas. En fait, depuis la loi travail, il y a plein de parties de notre camp social qui est en mobilisation. Donc là, il y a des rendez-vous qui sont donnés. Comment intervenir dans la manifestation samedi, se retrouver avec les camarades du comité Adama, de l'Intergare, de toute une série de militants qu'il y a sur la région parisienne. Et puis, concrètement, s'organiser pour bloquer l'économie, bloquer le pays. C'est comme ça qu'on va gagner.
Bonsoir, moi c'est Jean, je suis étudiant à Paris 8 et j'ai plusieurs interrogations et des propositions.
Ouais, alors moi je suis étudiant en fait, on commence à se remobiliser sur nos campus, on n'en a pas parlé ici ce soir, mais il y a quelques facs qui commencent à être bloquées. Moi ce qui me semble important...
C'est un joli nom, camarade.
Avec ce que disait le camarade, je ne sais plus quel est ton prénom là, Jacob.
Avec ton seul nom, quand on parle... Les lèvres s'épanouissent.
Victor Carla, camarade. Romain Bart, William Cassier, camarade.
Olivier Rigaël. On peut agir sur son pour le bien de tous, pour tout partager.
Hey, on va chez Samir là-bas.
Samedi, tu vas à Romainville.
Alors vous êtes venu intervenir à cet âgé. Vous venez de Bordeaux, c'est ça, pour donner un peu des nouvelles du Front Social Bordelais.
Ouais, moi je viens de Bordeaux, mais en fait, je suis carrément restée depuis la grosse manif du 24, samedi 24. Voilà, je voulais soutenir le mouvement à Paris. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de mouvement. Je me suis retrouvée comme une con.
Donc ça se mobilise plus à Bordeaux qu'à Paris, quoi.
Bah oui, à Bordeaux, on a fait des blocages au début. Après, on a décidé d'arrêter de bloquer les gens parce que ça tournait mal. Les gens ont déjà assez de problèmes. Donc on a réfléchi, on a fait des actions plus positives comme lever les péages, rendre les parkings d'hôpitaux gratuits, des choses qui devraient être gratuites et où on est racketté. Donc tout le monde trouve ça très positif. Voilà, c'est des actions positives. Y a à Bordeaux, il y a énormément de gens qui sont motivés et il se passe des choses incroyables parce que même les gens qui ont peur, parce qu'on a focalisé sur quelques fachos à des moments, il faut savoir qu'il y a des gens de toutes les couleurs
politique
et de peau, et politique et de peau. Donc c'est absolument pas du tout, je pense que ça doit même pas faire 1% les fachos dans tout ça. Et en plus, même si parfois on rencontre des gens, quand on parle forcément dans les barrages, il y en a qui disent « ouais, ben moi j'ai voté Le Pen et machin », ben en fait comme ils se retrouvent avec des gens qui réfléchissent un peu plus loin, c'est même qui ont voté Le Pen, ils disent « ah ben ouais, t'as raison, finalement je me suis fait manipuler, ça arrive... tout le temps à Bordeaux. Donc c'est quelque chose d'incroyable qui est en train de se passer. On va y arriver tous ensemble.
Gilets jaunes, gilets jaunes, gilets rouges et noirs, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets rouges et noirs, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes et noirs, gilets rouges, gilets rouges et noirs, gilets rouges et noirs, gilets jaunes, gilets rouges. Gilets rouges et noirs, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets rouges et noirs, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets rouges et noirs. Du mouvement social, du mouvement social.
On sort de l'AG. Qu'est-ce que vous retenez de cet AG, alors, de cet AG du Front Social ici à la Bourse du Travail?
Mais cet AG là qui était convoqué à la base par les postiers du 92, qui sont en grève depuis 8 mois, qui se disaient bon, ben là c'est le moment de se bouger, la colère est là, faut qu'on y aille tous, faut qu'on se mette en grève, quoi. Là il y a l'occasion, il y a une occasion rêvée. Et on pensait, on avait réservé une toute petite salle et on se retrouve dans la plus grande salle de la Bourse du Travail avec énormément de gens, c'est complètement hallucinant. Ouais.
Alors David Pigeon, vous êtes sur le front des lycées, hein, c'est ça, de l'enseignement. Alors ça, on est où? Il y a eu des blocages de lycées cette semaine?
Les lycéens ont fait eux-mêmes, parce que tout le monde a vu comment Parcoursup c'était totalement inégalitaire, et notamment dans des lycées comme le mien, dans des lycées enseignement ZEP, éducation prioritaire dans des quartiers populaires, ben, les élèves ils se sont bien rendus compte à quel point ben, leurs anciens camarades ont été désavantagés par Parcoursup. Ils étaient déjà avec AB, mais là ils l'ont été encore plus. Et ils font le lien entre Parcoursup là et une réforme du lycée et du bac, où ils comprennent que ça va être la concurrence entre les établissements, l'inégalité entre les établissements. Et du coup, ben, on a des élèves qui discutent entre eux, ils se disent « Ah ouais, mais en fait, maintenant, c'est pas bac S, L ou je sais pas trop quoi. Ça va être bac Gennevilliers, bac Nanterre ou bac Neuilly ou bac Louis-le-Grand. Et qu'au final, j'aurai pas ma fac parce qu'il y aura la sélection à la fac. » Et ils font le lien, ils disent « Non à Parcoursup, non à la réforme du bac, non à la réforme du lycée. »
Alors, c'est vraiment le mouvement des Gilets jaunes qui a rallumé la mèche, la contestation sociale.
Si on regarde comme ça de loin, on se dit que ce n'est pas du tout les mêmes revendications. Mais pourtant, ils se sont dit, eh ben là, ça commence à chauffer dans le pays. Eh ben, nous, on y va aussi. Nous, on y va, les lycéens. Et on se met à bloquer nos lycées. Et on voit que ça a eu un succès hallucinant. Il y avait des choses dont plus personne ne parlait. Tout le monde pensait que Parcoursup, c'était bon. La réforme du bac, c'était passé. Que tout allait bien. Alors que personne n'en voulait. Qu'ils allaient réussir à nous l'imposer contre l'avis de tout le monde. Mais là, ils prouvent que quand on se bouge, on peut y aller. Et moi, je pense que c'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'à partir de la colère qui s'est exprimée là, et que maintenant, tout le monde a envie d'y aller et comprend qu'on peut faire reculer Macron alors qu'on pensait qu'on allait tous se faire écraser, mais c'est le moment de tous y aller sur nos propres indications et de ne pas hésiter, quoi.
Mercredi matin, Paris, 13e arrondissement, Université Tolbiac.
Bonjour, on vous retrouve, vous êtes devant l'Université de Tolbiac à Paris. Quelle est la situation sur place maintenant ?
Hier mardi, le blocage a été voté et c'est tout à l'heure l'Assemblée Générale.
Vous disiez, le blocage a donc été voté par les étudiants et la principale raison de ce blocage, c'est la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers hors Union Européenne. Jusqu'ici, un étudiant en première année de licence, par exemple, payait environ 170 €. Et bien, à partir de la rentrée prochaine, il paiera 2 770 €, inadmissible pour l'ensemble des étudiants qui craignent aussi pour leurs propres frais d'inscription. Et puis les étudiants de Tolbiac l'ont annoncé samedi, ils manifesteront aux côtés des Gilets jaunes.
Pardon.
Alors, l'AG est en cours en ce moment même à Tolbiac. Elle a été votée hier soir, mardi. Et je vous retrouve, Tara Bouhafs, avec votre gilet jaune devant l'université. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites là ?
Moi, je suis Tara Bouhafs. Je suis un militant du mouvement social. Je suis ici présent en solidarité, notamment en premier lieu avec les étudiants étrangers dont le prix des frais d'inscription pour les licences et les masters a été augmenté de façon exorbitante.
Voilà, décuplé pour des étudiants africains.
Fois 10. Cette mobilisation aujourd'hui reprend avec toutes les autres. Il se trouve que voilà, aujourd'hui, il y a une colère qui gronde dans les facs, dans les lycées. Il y a aussi les bacheliers qui n'ont pas eu accès à l'enseignement supérieur, qui aujourd'hui sont très en colère.
Et sont les recalés de Parcoursup.
Exactement, qui sont remontés à bloc. Et finalement, voilà, il y a aussi ce mouvement des Gilets jaunes. Bon, personne ne l'avait vu arriver. Nous, en tant que militants de gauche, classique, etc., c'est vrai qu'il faut l'avouer, nous avons été pris de court par cette irruption spontanée, populaire, avec notre temps de réflexion à un moment donné aussi sur le mouvement, sur dire est-ce que c'est pertinent ou pas, est-ce que c'est un truc de revendication poujadiste, etc. Et voilà, c'est normal aussi, parce qu'on n'est pas habitué à... C'est une forme de mobilisation totalement inédite. On est en train de vivre un bout d'histoire qui est extrêmement particulier, et à nous aussi d'être à la hauteur et de ne pas rester dans notre entre-soi, parce qu'on a toujours demandé une mobilisation massive. Aujourd'hui, qu'il y a une mobilisation massive, on la rejetterait. Ça n'a aucun sens. Et finalement, avec la mise en ligne de la plateforme de revendication, en fait, on est bluffé par la pertinence de ces revendications. Où voilà, le pays bouillonne, on parle de constituante, on parle de répartition des richesses, on parle de justice fiscale, de répartir l'effort dans ce pays, parce que c'est toujours les plus pauvres qui trinquent de ces politiques antisociales, austéritaires. Et on voit aujourd'hui qu'il y a tout un tas de secteurs en lutte aujourd'hui qui se reconnaissent dans ce mouvement des Gilets jaunes. Il y a les cheminots de l'intergare, il y a les postiers du 9-2, il y a tout un tas de gens aujourd'hui qui sont en colère et qui rejoignent ce mouvement des jeunes et qui se reconnaissent parce que finalement, il y a aussi, et il faut le dire, une méfiance, une défiance vis-à-vis des corps intermédiaires que sont les syndicats, que sont les partis politiques. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle forme de mobilisation qui n'est pas forcément organisée dans la façon dont on sait, ou peut-être désorganisée, peut-être c'est ça qui fait sa force, c'est de dire que voilà, il n'y a rien de prévu, il n'y a rien de prévisible. Pour le coup, tu vois, je suis pas, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait Sciences Po.
Quel âge déjà,
t'as 21 ans. Donc, il faut faire ce pari-là de l'intelligence collective. Il y a un moment donné où, forcément, quand il y a la masse qui se met en mouvement, qui explose, forcément, elle arrive aussi avec tous ses préjugés, avec tout ce qui va mal aussi. Mais il faut accompagner cette colère, cette explosion. Mais il ne faut surtout pas mépriser ce mouvement. Il ne faut surtout pas mépriser les gens qui le composent parce que c'est des gens qui souffrent.
Et qu'est-ce que vous pensez de ce que François Ruffin répète depuis plusieurs jours ? C'est qu'il faut s'intéresser à ça. Sinon, c'est le FN qui va récupérer cette colère-là.
Mais moi, je suis 100% d'accord avec ça. Il y a à un moment donné une colère qui explose. Et si les syndicats s'entêtent à appeler à faire des mobilisations à part, à machin comme
la CGT, la CGT.
Le 1er décembre, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, ils marchent contre Macron, demain, ils marchent contre nous. Et donc, on a une responsabilité encore particulière dans cette histoire. Et il y a cette gronde générale, en tout cas, et ce point commun, ce fil qui relie toutes les luttes les unes avec les autres, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a vraiment un président des riches et il nous faudrait un président des pauvres.
Xavier Niel sur Europe 1 ce matin. Vous avez eu le président de la République récemment au téléphone ?
Non. Je suis pas à la mode, hein. Quand je vais vous dire ça, je crois qu'on a un super président pour aider les plus aisés. Il est en train de faire des lois fantastiques. Donc, ça va en son sens. Maintenant, dire ça aujourd'hui, c'est un peu être le seul à votre
ce matin. Toi, c'est courageux.
On sent bien qu'il y a beaucoup de violence, on sent bien qu'il y a un climat qui se durcit. Mais ce qui est sûr, c'est que on sent bien que cela se concentre autour de la personnalité du président de la République. Un paroxysme extrêmement inquiétant pour ce samedi et pour les gens qui viennent.
C'est un peu comme un sursaut de réel. Je dis ça, j'utilise le mot réel délibérément, Emmanuel Todd, parce que c'est un peu pour ça que j'ai voulu vous rencontrer. C'est avec la publication d'un article que vous avez fait dans l'excellente revue Books, où vous parlez justement pas de réel, mais de science-fiction.
Oui, bah c'est parce que la science-fiction fait aussi... Alors d'un côté, je suis anthropologue...
Démographe,
mais être anthropologue, c'est s'intéresser aux structures qui viennent du passé et qui conditionnent le présent, qui est dans l'identification des permanences, de ce qui ne change pas, vous voyez ? Donc j'ai écrit des gros livres sur tout ça, mais j'ai aussi une réputation comme prospectiviste. J'ai prédit les fondements du système soviétique, l'affaiblissement du système américain, les révolutions du monde arabe. Ma plus grande prédiction, ça va être l'échec final de l'euro, qui se présente quand même pas mal. Et c'est évident pour moi que je ne serais pas capable de spéculer sur des choses comme ça si j'avais pas été un très très grand lecteur de science-fiction. Celui qui m'intéresse le plus, c'est Philip K. Dick, qui est le type qui est vraiment le plus utilisé au cinéma actuellement.
C'est ce que j'allais dire, voilà, c'est le nombre de remakes hollywoodiens.
Voilà, et donc la caractéristique fondamentale de Dick, c'est la présence de personnages qui ne savent plus qui ils sont. À ce titre d'ailleurs, Total Recall serait peut-être le plus caractéristique en fait de ce point de vue-là, puisque le type ne sait plus dans quel camp il est, découvre trop tard qu'il est dans le mauvais camp, mais fait prendre la bonne décision à la fin, enfin bon...
C'est... Avec des identités qui sont effacées et réécrites.
Tu vas trouver ça difficile à croire. Tous ces souvenirs que tu crois avoir. Il n'y en a pas un de vrai. La personne que tu crois être, c'est une invention totale.
Si je suis pas moi, alors qui je suis ?
Je pense que ce que pourrait nous apporter Dick, pour moi, c'est très intéressant parce que je travaille sur la notion de déficit identitaire généralisé. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est les élites françaises qui croient qu'elles ne sont pas françaises. Ça, c'est vraiment, à la limite, on pourrait analyser le comportement des élites françaises sous Sarkozy, Hollande ou sous Macron comme un phénomène de trouble identitaire. Je veux dire, voilà des gens qui sont des caricatures de Français pour tout le monde et qui se prennent pour des Allemands ou qui se prennent des Européens, catégorie qui n'existe pas. On a de nouveau un problème de trouble identitaire. Tout ça, c'est pour Dick. C'est pour ça, je ne sais plus qui a dit que c'était génial de mettre des Français à la tête des institutions internationales, parce que c'était vraiment les seuls qui étaient vraiment capables de ne pas défendre leur pays d'origine. Voyez.
Et là, on revient dans la science-fiction, ce que vous disiez, Emmanuel Todd.
Oui, j'élargis. Peut-être qu'avec Macron, la France est en train de devenir un pays pour Dick. C'est vraiment dommage qu'il soit mort. Hein. Voilà, peut-être ça va comme ça, non ? Là, je suis bien cramé, c'est bon, non ?
Jeudi soir, Bourse du Travail, samedi. Grande réunion, Gilets jaunes, préparons l'acte 4 ensemble. Gilets jaunes, moi gilets jaunes, demain les gilets
Pourquoi c'est bloqué?
Est-ce que possible de rentrer? On a des problèmes de sécurité.
Oui. Et les gardiens, oui,
c'est plus de 400.
Oui,
terminé.
J'ai vécu toute la réunion.
Non, non, mais elle est blindée. Je suis désolé.
C'est pas raisonnable, il y a 20 personnes dehors. Les
anciens collés, c'est pas bon. Il y a 20 personnes qui ont des problèmes. Les anciens collés, c'est pas bon. Ils bloquent les péris, c'est pas bon. À cause de la manif, c'est pas bon. C'est plus Emmanuel Macron.
Il a changé d'avis.
Petit manifeste pour 10 centimes de gasoil en ficelle. Petit manifeste pour 10 centimes de gasoil en ficelle. Petit manifeste pour 10 centimes de gasoil en ficelle. Petit manifeste pour 10 centimes de gasoil en ficelle. Y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre. J'vais manifester, donc j'mets mon gilet jaune. Mon gilet jaune, t'es mal les gilets jaunes. Faut danser petit. Gilet jaune, ma gilet jaune, t'es mal les gilets jaunes, faut danser petit.
Comme un bruit qui court.
Donc je vais passer la parole à Maman Luc 93.
Y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre.
Y'en a marre d'être exploité, d'avoir des boulots qui détruisent nos vies et nos corps. Y'en a marre de la précarité qui nous rend à la merci de nos chefs et de nos patrons. Il y en a marre du chômage, marre des riches qui s'engraissent sur notre dos. Il y en a marre d'avoir des boulots qui détruisent nos vies et nos corps. Il y en a marre de la précarité, il y en a marre du chômage. Il y en a marre de l'absence de logements sociaux décents. Il y en a marre de l'école au rabais et de leurs réformes pourries. C'est pas en ramenant les flics dans nos écoles qu'on combattra les inégalités.
On sort tout juste de l'Assemblée, vous venez de prendre la parole.
En tant que prof, oui.
Expliquez-moi.
Ben, moi je suis Véronique Eza, je suis enseignante en élémentaire, mais je suis syndiquée à la CGT Éducation et du coup nous avons eu un certain nombre d'appels de nos collègues qui nous ont parlé de leur situation dans les établissements.
Parce que ce jeudi il y a eu des manifestations et il y a eu beaucoup d'arrestations.
Il y a eu
ces images qui ont tourné en boucle,
oui,
de 140 gamins qui sont à genoux et les mains sur la tête, arrêtés par la police.
Oui.
Voilà une classe qui se tient sage.
700 interpellations hier, 300 établissements perturbés et cette image qui fera date à Mantes-la-Jolie, des dizaines de jeunes regroupés par la police à genoux, mains sur la tête à proximité du lycée Saint-Exupéry.
Mantes-la-Jolie. Les images des interpellations des jeunes gens arrêtés sont dures. Je crois qu'il est important de les replacer dans un contexte. Il y a la vérité, il y a le commentaire. Il y a aussi l'exploitation par certains.
Le ministre de l'Éducation ce matin se dit quand même choqué.
Voilà une classe qui se tient sage.
Alors là, il faut vraiment être cœur d'artichaut et bien pensant pour s'offusquer de ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie. Ce qui s'est passé, c'est tout à fait normal. Et c'est même pour protéger les lycéens qu'il faut comme ça les traiter si on les laisse en groupe.
Et alors, quelle relation vous faites entre ces mobilisations-ci et les gilets jaunes?
La colère. La colère, nous, on a des élèves qui vivent dans des conditions difficiles et ce sont des élèves que moi j'appelle des sacrifiés du système éducatif. Et le collège, c'est un outil qui sert à sélectionner les enfants. L'éducation nationale, elle fait quoi pour ces gamins? Une fois qu'ils ont 16 ans, 17 ans, eh bien on les lâche dans la nature et ils se débrouillent. Ces mômes, ils sont en colère. Et oui, il y a des jeunes qui ne sont pas dans les lycées, qui viennent des quartiers et qui viennent brûler des écoles. Pourquoi? Parce que c'est l'école, c'est l'institution qui les rend en colère, parce que l'institution les aura craché à la figure et les a laissés dehors.
Et alors, plus généralement, si on regarde toutes les colères qui sont en train de se cristalliser en ce moment, qu'est-ce qui se passe d'après vous dans notre pays en ce moment? Il y a un vent?
Ah ben, il y a un vent qui tourne, et alors, je peux vous dire que même moi, je ne peux pas l'expliquer. C'est au jour le jour, je regarde ce qui se passe. J'en suis très contente, voilà, c'est beaucoup d'émotions pour moi. Et j'espère qu'il va durer, qu'il va amener quelque chose.
Alors pendant que les uns s'énervent et s'inquiètent, ont peur, d'autres se prennent à rêver.
Oui, mais pour une fois, ceux qui s'inquiètent et ceux qui ont peur, ils sont de l'autre côté de la barrière.
l'actualité, c'est donc d'abord cette visite surprise d'Emmanuel Macron ce soir au Puy-en-Velay.
Oui, effectivement, Emmanuel Macron qui est arrivé vers 16h15 ici à la préfecture du Puy-en-Velay pour une visite surprise avant de filer en sortant sur le trottoir encadré par un important dispositif de force de l'ordre. Le président de la République a voulu ouvrir la vitre pour saluer les gens qu'il croyait être amicaux autour de lui et c'est tout le contraire qui s'est produit. Il a été rapidement conspué, vous l'entendez. Tous pourris, Macron démission. Les gens l'ont poursuivi pendant un moment, poursuivi ce cortège, obligeant la garde rapprochée d'Emmanuel Macron, les gardes du corps à sortir d'ailleurs un court instant des véhicules pour repousser les gens qui se massaient derrière ce cortège.
Qu'est-ce qui se passe? Les villageois, monseigneur, ils vous acclament. Ils m'acclament? Oui.
Et puis le président de la République est parti, toute sirène hurlante. Il a quitté la préfecture du Puy-en-Velay et sans doute vraisemblablement la ville également.
Bonsoir à toutes et à tous. Moi je m'appelle Alas Kazib, je suis cheminot militant chez Sudrail et également un des membres du collectif de cheminots de l'Intergare. On pense que réellement le mouvement des Gilets jaunes, c'est le mouvement de notre camp social. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est une situation exceptionnelle, c'est une situation sans précédent qu'on est en train de vivre. Il n'y a personne qui peut le nier. Pour nous, c'est criminel de rien faire aujourd'hui, de regarder avec mépris ce que les Gilets jaunes sont en train de faire.
Je suis content de vous rencontrer ici à Saint-Denis, à la Bourse du Travail, ce jeudi, en amont de la manifestation.
Voilà, aujourd'hui on est là à la Bourse du Travail. On a lancé cet appel avec le collectif Intergare de cheminots. C'est un collectif qui s'est constitué et créé tout le long de la bataille du rail pendant ces trois mois.
Cette grève perlée contre le changement de statut de la SNCF qui a été un échec.
Oui, ça a été un échec. Nous, on l'avait dénoncé dès le début sur mon secteur à Paris Nord. Et le collectif Intergare, il a commencé à se dire peut-être qu'on devrait aller peut-être plus loin que cette bataille du rail, de continuer de tisser des ponts avec le comité Adama, avec certaines organisations étudiantes, parce que les quartiers populaires ils doivent faire partie du mouvement des Gilets jaunes, parce que c'est aussi des précaires, c'est aussi des personnes qui ont des difficultés financières, etc. Donc on a dit l'acte 4, il ne sera pas sans nous, mais il sera avec nous, et on va essayer d'organiser le plus gros cortège, que ce soit les facs, les lycées, etc., etc., les quartiers populaires, les secteurs organisés, que ce soit les postiers, les cheminots, d'essayer d'élargir ce mouvement des Gilets jaunes. Voilà. On n'était peut-être pas les premiers, mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, on est avec eux et nous, on va rester avec eux jusqu'au bout.
Il y a ce mouvement spontané qui a surpris tout le monde. Et voilà que maintenant, une partie de cette société civile qui avait été mise sur la touche par les réformes au pas de charge du gouvernement a fait voir un front. C'est ça que vous espérez?
De toute façon, le mouvement des Gilets jaunes, il n'est pas sorti uniquement d'Internet. C'est aussi un cumul de cette colère sociale. Qui sème la misère récolte la colère. Il est en train de la récolter, cette colère. Cette colère, elle date des ordonnances au travail, de l'attaque des EHPAD, de Parcoursup, de l'attaque des cheminots. On peut même y ajouter Benalla, parce que quand même, c'est le nouveau monde, c'est pas l'ancien monde, et qu'au final, il y a des tactiques de barbouze comme l'ancien monde. C'est tout ça. Moi, je dis, cette expression, c'est le vase, il s'est rempli d'essence. Et c'était la goutte d'essence qui a fait déborder non pas le vase, mais le pays tout entier. Donc, c'est important, nous, d'y être, parce que moi, je pense à une dame qui venait de Lyon avec son mari et ses deux enfants qui étaient là samedi avec nous, à nos côtés, qui nous a dit: moi, je vous suis parce que je sais que vous connaissez Paris, vous savez faire, vous, ça, les cheminots. Cette dame-là, elle expliquait que dans son secteur, il n'y avait pas de gare. Il n'y avait pas de gare, qu'ils avaient mis des bus. Et après, les bus, au final, ils les ont supprimés totalement. Donc, comment elle fait? Moi, en tant que cheminot, je ne peux que me reconnaître dans ce combat-là. Parce que nous, au moment de cette bataille du rail, on a dénoncé le démantèlement des petites lignes. On a dénoncé, en fait, la casse du rail. On veut du vrai service public ferroviaire. On veut qu'il y ait des gares, on veut qu'il y ait des lignes. Donc, ça fait partie aussi de cette colère. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux gens: je supprime une taxe et puis débrouille-toi. Voilà.
8h30 sur RGFM, voici les infos. L'essentiel de l'info, local et régional, présenté par Damien Tardieu.
Bonjour à tous. À partir de dimanche, il ne sera plus possible de se rendre de Montluçon à Paris et inversement sans changer de train. Le nouveau service mis en place par la SNCF enterre l'aller-retour quotidien direct vers la capitale. Correspondance obligatoire par Bourges, la SNCF explique qu'il s'agit d'adapter les liaisons. À l'arrivée de nouveaux matériels entre Montluçon et Bourges, c'est prévu pour le premier trimestre de l'année prochaine. Mais pour le comité de défense du rail de Montluçon, c'est un énième épisode dans le long feuilleton de la dégradation du service public ferroviaire pour la ville. Daniel Coffin est secrétaire du comité de défense du rail.
Daniel Coffin, là, on est devant la gare de Montluçon.
Oui.
Ils sont en train de la retaper, c'est ça? C'est pour faire un musée?
Ouais, ce serait pas une mauvaise idée. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qui se passe derrière. Et là, on a de sérieuses craintes depuis fort longtemps. Mais là, ça se précise et Montluçon va devenir sans doute un cul-de-sac ferroviaire. Et ça, c'est pas fait pour nous rassurer. Pourtant, notre position géographique nous permettait d'espérer autre chose, puisque nous sommes au centre de la France, au centre de tout. Et pourtant, on est loin de tout en termes de temps de parcours.
Ça veut dire qu'ici, à Montluçon, point de salut, c'est en voiture, quoi.
Voilà,
c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gilets jaunes dans les voitures, là, qui sont garées là, quasiment toutes les voitures.
Oui, non, mais tout à fait. Vous savez, en matière ferroviaire, on est toujours en train de respecter cette fameuse étoile de Legrand, hein, qui a pour centre Paris et qui voit dans différentes directions de la France. Mais les infrastructures ferroviaires transversales, aujourd'hui, elles n'existent pour ainsi dire plus. Et on a construit le TGV de la même façon qu'on a construit l'étoile de Legrand. Mais le TGV, s'il sert énormément aux métropoles aujourd'hui, il crée aussi du désert. Il crée aussi du désert tout simplement parce qu'on n'a pas pensé à moderniser le reste. Et Montluçon en est un exemple assez vibrant. Les médias, depuis quelque temps, qui partent depuis un certain article du Monde diplomatique jusqu'à aujourd'hui, s'intéressent à Montluçon parce qu'on est un exemple frappant de ce qui attend les villes moyennes.
Vous, Daniel Coffin, vous avez travaillé justement à la SNCF, hein,
non,
c'est ça ?
J'ai travaillé à la SNCF, ouais. Oui. Pas à Montluçon, mais j'ai travaillé à la SNCF, oui, pendant 37 ans. Et voilà, je suis retraité, petite retraite. Mais on continue le combat parce que c'est pas possible, quoi. Et puis il y a des gens encore plus malheureux que nous. Et c'est aussi pour cela qu'il faut faire quelque chose. Nous, on est une association, le Code des Rails, qui fête ses 30 ans cette année. On est né en 1988, puisqu'en 1988, on sentait déjà qu'il y avait un danger pour le ferroviaire et notamment pour les zones centrales, en gros le massif central. On a porté la défense du service public ferroviaire, disons presque à bout de bras, hein, depuis une trentaine d'années. Malheureusement, notre action, si elle a sans doute servi à reculer certaines échéances, elle n'a pas réussi à changer véritablement la donne. Et aujourd'hui, on a une autre étape. À partir de dimanche, il n'y aura plus de train direct Montluçon-Paris.
Aller à Paris, c'est une chose, mais aussi aller à Lyon, par exemple, c'est la métropole, hein, de votre nouvelle région, quoi.
Alors,
ça, c'est encore un autre parcours.
Alors, c'est un autre parcours, c'est un autre problème, mais c'est assez. Ça serait rigolo si ça n'était pas aussi dramatique. Chez nous, de Montluçon pour aller sur Lyon, c'est vraiment le parcours du combattant. Aujourd'hui, si vous voulez faire quelque chose au chef-lieu de région, vous ne pouvez pas y aller, autrement que par la route. Vous ne pouvez pas y aller. Et puis, toutes les directions des grands services ont été transférées à la grande métropole. Donc, c'est tout là-bas que ça se passe, à Lyon.
Et du coup, Montluçon est une ville qui dépérit, quoi. C'est pas que lié à ça, parce qu'il y a eu une désindustrialisation depuis une trentaine d'années, c'est sûr. Mais quand même, ça aide pas à faire redémarrer des activités, à faire renaître le territoire.
Montluçon, vous savez, en 1968, il y avait 60 000 habitants. Aujourd'hui, un peu plus de 60 000 habitants. Aujourd'hui, il y en a un peu plus de 37 000. Alors c'est vrai que la population des communes périphériques a augmenté parce que le foncier était moins cher qu'à Montluçon, bien évidemment. Mais ça n'explique pas cette différence. On a perdu presque la moitié des habitants.
Et ces jours-ci, beaucoup de mobilisation quand même des gilets jaunes, hein, notamment à Montmarault, là, un carrefour qui a une trentaine de kilomètres d'ici.
C'est le carrefour entre la 71 et la route Centre-Europe Atlantique.
Et voilà un gilet jaune, justement.
Oui. Donc,
Monsieur, je peux vous poser une question ? Vous êtes gilet jaune, c'est ça ?
Je suis gilet jaune, mais pas pour les transports ferroviaires Spertel-Lyon. Je suis gilet jaune pour le pouvoir d'achat, pour tout ce qui en découle, quoi, je veux dire. Je suis retraité et j'ai mon salaire qui a baissé. Hein, et puis voilà, quoi, c'est le principal. Et puis la vie est de plus en plus chère. Et ma poche est toujours ouverte, on vient toujours se servir dans la même. Voilà. Donc ça vient quand même du ras-le-bol des gens, du ras-le-bol du syndicat, du ras-le-bol des politiques. Et voilà, quoi. Voilà. Mais ça, apparemment, ils n'ont pas l'air de trop le comprendre au gouvernement. Et pas que ce gouvernement, hein, on peut remonter à loin, loin, loin.
Voilà. Vous allez aller sur Paris samedi
non,
ou pas ?
Non.
Vous n'allez pas profiter du dernier direct ? Après, il n'y aura plus de temps direct.
C'est paradoxal, et ce que dit monsieur, c'est tout à fait vrai. Moi, je partage tout à fait ce que vous dites. Il y a un malaise profond dans la société. Il est illustré par le mouvement des Gilets jaunes et il est illustré aussi par les mouvements sociaux de depuis des temps. Il va bien falloir un jour qu'on change la donne.
Oui, je réponse. Je pense qu'on va y arriver à la fin quand même à sortir quelque chose de tout ça, quoi. Parce que là, faut que ça dure jusqu'au bout, quoi. Faut qu'ils comprennent au gouvernement qu'on n'est pas des veaux, comme disait le général de Gaulle.
Voilà. Merci bien.
Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée.
Bonsoir. Eh bien, garde Montluçon, ça s'anime tout d'un coup. Alors, vous êtes les lycéens, c'est ça?
Oui, on est lycéens, on fait une manif du coup ici à Montluçon. Et donc c'est contre beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à laquelle se battre. Donc déjà, la réforme du bac inégalitaire, bien sûr. La réforme de l'accès à l'université inégalitaire aussi. Parcoursup inégalitaire. Il y a aussi 2-3 gilets jaunes et puis aussi on est aussi contre l'ISF. Il y a des gilets jaunes qui nous ont rejoints parce qu'il y a quand même un climat social très fort ces derniers temps, avec la campagne populaire qui monte. Quand on a marre du gouvernement, on a marre de sa politique. Et on le dit tous ensemble, dans toute la France.
Et vous avez bloqué les lycées alors ici à Montluçon?
Oui, alors on a bloqué Paul Constant et le lycée même de Stein. Ça a très bien marché dès le matin. Je ne sais pas combien on était rejoints par Paul Constant plus tard dans la matinée. Actuellement, on défile.
Une grosse centaine, quoi, c'est ça, plusieurs centaines.
On a récupéré d'autres personnes parce que tout le monde n'a pas suivi. Mais,
mais c'est surtout qu'il y en a qui sont restés pour garder le blocage au LEM, en fait, au sein de Stein.
Et vous avez un coup de main, donc, des copains de la CGT, quoi.
C'est la CGT qui nous encadre. Ça vient de notre initiative.
Alors, vous êtes lycéen ou gilet jaune ou les deux à la fois?
Les deux à la fois. Ah
ouais. Bon, on est tous dans le même cas, hein.
La jeunesse est dans la rue. Macron, t'es foutu. La jeunesse est dans la rue. Macron, t'es foutu. La jeunesse est dans la rue. Macron, t'es foutu. La jeunesse est dans la rue. Macron, t'es foutu. La jeunesse est dans la rue. Macron, t'es foutu. La jeunesse est dans la rue.
Macron, t'es foutu. La jeunesse est dans la rue.